Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. Cette semaine, on aurait pu vous parler de plein de choses, mais on va commencer par de l'ambiance. On aurait donc pu vous parler de la Pride qui a réuni 1650 personnes dans les rues du Mans samedi 4 juillet. Bon, beaucoup de drapeaux, des slogans de qualité comme « Un patron gay reste un patron », « LGBT contre l'exploitation ». Des tentatives pour politiser cette manifestation ont également eu lieu. Il y a un dying qui a eu lieu rue Chanzy. Mais sinon, c'est quand même l'idée de la fête qui prime. Alors pourquoi pas, hein, la fête, c'est bien. Mais un peu de slogan, c'est pas si mal. Un peu de politisation dans tout ça, puisque l'air de rien, cette fierté, elle vient d'un combat de gens pour être acceptés tels qu'ils sont. Et puis, il y a l'idée du merch. Des stands qui vendent des produits estampillés arc-en-ciel, peut-être un peu trop nombreux au village. On se demande si le pouvoir d'achat de la communauté LGBT est plus important que son pouvoir de politisation. Mais stop, on va plutôt se souvenir qu'il ne faut pas perdre de vue autre chose quand on parle des LGBT, mais quand on parle du reste de l'humanité également. Non, il ne faut pas oublier ça. Heureusement, certains manifestants étaient là pour nous le rappeler. On aurait pu vous parler aussi du Festival des idées qui a lieu à la Charité sur le Loire. Non, sur la Loire. À Charité sur Loire, tout court. Dans la Nièvre, entre les 3 et 5 juillet. L'un des invités à débattre était Boris Vallaud, une figure du PS, le parti qui se dit socialiste. Il intervenait le samedi 4 juillet dans un débat intitulé « Face au tout marché, comment reprendre la maîtrise de nos vies ?» Une vidéo avec un son tout pourri tourne sur les réseaux où l'on peut entendre le député des Landes indiquer que le marché est incapable de reconnaître la valeur des métiers du soin. Et il enchaîne en demandant « Comment peut-on reconnaître la valeur d'un métier ? » À quoi il répond, c'est assez simple, c'est un métier dont on ne peut pas se passer. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour Boris Vallaud, haut fonctionnaire attaché à des cabinets ministériels depuis qu'il bosse et député depuis 2017. Il devrait chercher un métier dont on a besoin, en clair, qui a de la valeur. On aurait pu vous parler des opposants au racisme et à l'hypocrisie qui sont allés faire du bruit sur le passage de Marine Le Pen à la Flèche et ont, selon la presse, entraîné l'écourtement de la déambulation. Alors, ben juste deux mots, merci et encore bravo. On aurait pu vous parler de la dizaine de militants et élus du FN et du RN au Parlement européen qui a une nouvelle fois été condamné par la Cour d'appel de Paris pour avoir détourné des millions d'euros pour faire tourner le parti avec son lot d'emplois fictifs. Se pourvoyant en cassation, les Odoul et autres Le Pen se prévalent de la présomption d'innocence. C'est pour ça que je parlais d'hypocrisie tout à l'heure. En fait, un pourvoi en cassation suspend la peine le temps que la Cour de cassation vérifie que les droits de la défense ont bien été respectés et qu'aucun principe du droit n'a été malmené pendant l'instruction et les procès. Mais la Cour de cassation ne cherche pas à savoir si les condamnés sont coupables ou pas. Non, ils s'en foutent. Si l'arrêt de la Cour d'appel est cassé, c'est pour ça qu'on appelle ça la Cour de cassation, eh bien ça sera pour des raisons de droit et non pas de culpabilité ou d'innocence. Maintenant que les faf du RN essaient de nous rouler dans la farine en faisant semblant de ne pas connaître les rôles de chaque tribunal, Marine Le Pen était avocate, hein, rappelons-le quand même. Bon, alors pour Julien Odoul, c'est autre chose. Eh bien, nous rouler dans la farine en faisant semblant de ne pas connaître les rôles de chaque tribunal, c'est dans l'ordre des choses. Je rappelle quand même que l'extrême droite baratine les foules depuis toujours. et pour toujours. On aurait pu vous parler des gentils nazis qui peuplent le RN. À Saint-Avold, en Moselle, un conseiller municipal a démissionné après qu'une vidéo soit sortie, le montrant chantant « Maréchal, nous voilà dans une voiture ». Ah, ça fait pas du un nazi, pourrait-on m'objecter ? En effet, c'est juste un nostalgique du régime dirigé par le maréchal Pétain, un régime collaborant avec les nazis entre 1940 et 1944, un régime qui a mis en place une législation antisémite dès octobre 1940. Voilà, c'est tout. Quant au maire de Saint-Avold, toujours en Moselle, le 4 juillet 2026, il a été vu dans une Jeep arborant le drapeau confédéré états-unien, drapeau des États pour le maintien de l'esclavage lors de la guerre de sécession, drapeau qui sert de symbole aux suprémacistes blancs aux États-Unis. Le maire ne l'a pas vu ou ne savait pas. Ah ben voilà l'excuse servie par le nouveau maire qui a déjà sabré, comme la plupart des maires, élus sous l'étiquette du parti raciste qui revendique la préférence nationale. Il a déjà sabré dans les budgets des associations d'aide aux plus pauvres et aux migrants. Par contre, une Jeep avec le drapeau confédéré, eh, ça passe. On aurait pu vous parler du texte de loi qui permet d'instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre qui tueraient des gens dans l'exercice de leurs fonctions. Ce texte fut voté en première lecture à l'Assemblée nationale par 313 députés de droite, donc y compris bon nombre de macronistes, et d'extrême droite contre 199. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale le 7 juillet. Cette présomption pourrait être invalidée dès le premier élément contraire, nous dit Laurent Nunez, qui est donc le ministre des Pandores et des flics, ministre de l'Intérieur. Seulement, des éléments contraires, il faut encore les chercher, avoir la volonté de les chercher. Quand on voit la difficulté pour faire, actuellement, hein, pour faire une enquête sur les flics et Pandores qui tuent avec armes ou armes par destination, comme une bagnole, ouais, il y a des gens qui se font rentrer dedans. Cette disposition d'une extrême bienveillance envers les forces de l'ordre risque de compliquer encore les recours des citoyens. Il faudra avoir des vidéos que le procureur accepte de les verser au dossier et que la cour les reconnaisse comme valables. Ah ouais, ça va devenir pas facile. Sans transition, cette histoire. Je cite France 3 Pays de la Loire. Trois policiers de la brigade anticriminalité, BAC, d'Angers, ont été mis en examen le mardi 30 juin dans le cadre d'une enquête de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, indique le procureur de la République d'Angers, ce mardi 7 juillet. Ils sont soupçonnés de dénonciation mensongère mettant en cause un jeune homme accusé de refus d'obtempérer et de tentative de meurtre sur ses agents. L'affaire remonte au 4 novembre 2025. Ce jour-là, une équipe de la BAC patrouille à proximité de la route de Briolet au nord d'Angers. Ces quatre policiers auraient croisé deux hommes s'affairant dans le coffre de leur voiture autour d'un drone. Ils auraient par la suite tenté de fuir en fonçant sur les policiers. Donc voilà pour le contexte que j'ai donc pioché auprès de France 3 Pays de la Loire. Ensuite, il y a un des flics qui tire. Il touche un pneu. Le PV et les témoignages des autres flics concordent. Machin a tiré en légitime défense. Seulement en avril, une vidéo est justement versée au dossier et la tentative de meurtre fait pchit puisque la voiture était déjà passée quand le policier a tiré. Aucune enquête ne permet de les dénombrer. On n'enquête pas sur ce que l'on ne veut pas savoir, mais les PV de la police et aussi des gendarmes peuvent être bidonnés pour cacher des pratiques que l'éthique et la déontologie, si ça existe dans les forces de l'ordre, réprouvent. Ici, ça finit bien. Le délinquant qui avait bien un drone et s'en servait pour faire des livraisons dans les prisons ne sera pas condamné pour tentative de meurtre sur un policier. C'est toujours ça de pris. Il y a une tentative qui a fait plus. Il y a une pétition qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale qui donne des arguments contre cette proposition de loi qui a été votée en première lecture. Après, il faut que ça repasse au Sénat, etc. La navette parlementaire. La pétition en question, elle a fait plus de 500 000 signatures. Vous pouvez la trouver sur pétition au pluriel .assemblée-du-6-national.fr /initiative/i-6334. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais finalement, en pleine période de canicule, on a préféré continuer à vous parler de dérèglement climatique. Ouais, on est dans l'actu, quoi. Nous avons vu la dernière fois que, dans le traitement médiatique de l'épisode caniculaire de la fin juin, les causes n'étaient pas beaucoup abordées, les plateaux de BFM préférant les polémiques sur la coupe du Bermuda ou des sandales. Et quand il est avéré que le travail en placanière tue, la rengaine sur les gens qui ne veulent pas travailler revient pour délégitimer la proposition de gauche de jours de congé climatique. Nous avons vu aussi que la lecture attentive du Maine Libre entre le 22 et le 27 juin montrait à l'infini les variations des tentatives d'adaptation au dérèglement dérèglement climatique, sans que là encore ne soient vraiment interrogées ses causes. La plupart des médias font de l'accompagnement du libéralisme économique et n'ont aucun intérêt à critiquer le productivisme de la société de consommation, tant les pages de la presse écrite et le temps d'antenne des radios et des télés sont pleines d'incitations à acheter des marchandises, incitations qu'on appelle communément de la pub. Mais avec quelle force les farces... Mais avec quelle force les sacs à pub sont-ils en collusion ? On sait que le dérèglement climatique est lié aux activités humaines et en particulier à l'industrialisation de ces activités, c'est-à-dire la production de masse, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie proprement dite ou la production de services. L'injonction de l'économie libérale est de produire le plus possible en espérant conquérir des parts de marché. Cette attitude a donné des raisons économiques au colonialisme et à la consommation effrénée des populations des pays dits développés. Autant dire une invasion du monde par les valeurs de la bourgeoisie européenne, avide d'accumulation et de signes ostentatoires de richesse. Mais qui profite d'une organisation aussi délétère que l'activité de production de richesse ? Pour préparer l'émission, nous sommes allés lire la parole officielle en matière de dérèglement climatique. Ainsi, sur le site écologie.gouv.fr, on peut lire que les gaz à effet de serre sont les coupables du dérèglement. Le dioxyde de carbone, en premier lieu, CO2, qui contribue pour 2/3 de l'augmentation de l'effet de serre issu des activités humaines. Bah oui, la combustion des gaz, du pétrole, la déforestation, les cimenteries, j'en passe et du pire, tout ça produit du dioxyde de carbone. Il y a le méthane également, CH4, qui vient des exploitations agricoles, notamment de l'élevage des ruminants, des rizières inondées, des décharges d'ordures, des exploitations pétrolières et gazières, pour reprendre les principales sources. On a aussi le protoxyde d'azote, N2O, qui vient des engrais azotés en particulier. Les hydrofluorocarbures, HFC, une famille de gaz qui a remplacé les CFC qui grignotaient la couche d'ozone. Donc, que l'on retrouve comme fluide frigorigène, propulseur de spray dans la fabrication de mousse isolante. Les perfluorocarbures, PFC, une autre famille de gaz qui a remplacé les CFC qui grignotaient la couche d'ozone. Tiens, dans les frigos, on les retrouve aussi, dans les sprays, mais aussi comme antiadhésifs dans les ustensiles de cuisine. Cette famille, les PFC, regroupe de nombreux PFAS, vous savez, les polluants éternels. On a aussi l'hexafluorure de soufre, SF6, nécessaire à la production de magnésium, à la fabrication et à l'utilisation des équipements électriques de haute tension, à la fabrication de câbles et aux accélérateurs de particules. Pour les trois derniers, HFC, PFC et SF6, il y a des PRG et des GWP. Ça, c'est en anglais. Hein, ça veut dire la même chose que PRG. Acronymes qui n'ont plus de secret pour les auditeurs de la dernière émission. Eh bien, sachez que le PRG des HFC, PFC et SF6 sont très supérieurs au CO2. Ainsi, le PRG de l'hexafluorure de soufre est de 23 500, quand la référence est le CO2 affublé de la valeur 1. Donc, l'hexafluorure de soufre a un potentiel de réchauffement global, un PRG, 23 500 fois supérieur au dioxyde de carbone. Chaque kilo d'hexafluorure de soufre renvoyé dans l'atmosphère équivaut à 23,5 tonnes de CO2. Quand nos soi-disant représentants parlent de tout électrifier et donc de multiplier les équipements électriques de haute tension, ils oublient de calculer l'impact du CF6. Et quand la solution est de climatiser tous les bâtiments, rien n'est dit sur les HFC et PFC qui ont en moyenne des PRG, donc des potentiels de réchauffement climatique, de 2800, donc 2,8 tonnes pour chaque kilo de HFC envoyé, et 7,6 tonnes pour les PFC envoyés dans l'atmosphère. Il faudra donc lutter contre leurs émissions, c'est le versant préventif de la lutte contre l'effet de serre anthropique. Même le site officiel écologie.gouv.fr en parle. Je cite le site. Pour limiter les effets du changement climatique, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CCNUCC, se sont donnés pour objectif dans l'accord de Paris de, je cite, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. Et bien pour ce faire, il est crucial de s'attaquer aux causes du changement climatique en maîtrisant les émissions nettes de gaz à effet de serre, GES. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Eh ouais, mais dans les médias, on entend presque tout le temps parler de l'adaptation, l'autre versant, et pas de l'atténuation. Pourquoi ? Sans doute parce que la plupart des médias sont détenus par des milliardaires qui ont tout intérêt à ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'ils ont des intérêts financiers dans les activités qui produisent des gaz à effet de serre. Pour un libéral, le profit, l'accumulation, la capacité à montrer des signes extérieurs de richesse partent bien avant la vie des ressources humaines. C'est toi, c'est moi, les ressources humaines. Ça va même plus loin. Les richoux sont les principaux responsables du dérèglement climatique. On compte même des études scientifiques pour le prouver. Le journal Nature, qui a une déclinaison sur le changement climatique, a fait paraître une étude en mai 2025 montrant que les deux tiers du réchauffement climatique sont imputables aux 10% les plus riches de la planète pour la période 1990-2020. Que ces derniers sont en pointe pour produire de la sécheresse, des inondations, des périodes caniculaires, des tempêtes tropicales, bien en dehors de la zone intertropicale, ça devrait faire la une de tous les journaux. Ben non. On ne vous apprend rien. Hein. Déjà en 2007, Hervé Kempf, rédac-chef du site Reporter, publie un petit bouquin bien sourcé intitulé « Comment les riches détruisent la planète ». L'ONG Oxfam publie depuis des années des rapports et études à propos de l'impact des activités des riches sur le climat. L'un des derniers en date, titré « Main basse sur le climat » et sous-titré « Comment une poignée de puissants précipite le monde vers la catastrophe » montre l'accélération de l'émission des gaz à effet de serre par les plus riches depuis 1990. Je cite: depuis 1990, la part des émissions des 1% les plus riches a augmenté de 13% et celle des 0,1% les plus riches de 32%, tandis que celle des 50% les plus pauvres a diminué de 3%. Là, on parle au niveau mondial. Et déjà, les 0,1% les plus riches mais dépensent des milliers de fois ce que tu fais, toi, Pékin moyen, en production de gaz à effet de serre. Alors là, ça augmente toujours pour eux. Alors, on t'ajoute 13%, ça commence à faire. Cette totale insouciance a des conséquences directes en termes de lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi indirectes. Ainsi, le Pékin moyen se sent beaucoup moins prêt à s'investir si les autres ne le font pas. Donc pourquoi moi je ferais des choses contre le dérèglement climatique alors que les richoux le font pas? Un exemple qui n'a pas de valeur exhaustive, hein. Mais lors de la parade des pilotes en juin 2025, en tendant le micro, j'ai pu entendre ça.
Moi je pense que, si je peux me permettre, les 24 heures c'est une tradition. Les 24 heures du Mans, comme les 24 heures moto, les 24 heures camion depuis quelques années. Donc je pense que le culte de la voiture, oui c'est sûr, ça peut engendrer quelques pollutions, mais à côté de la pollution que tous les milliardaires y font avec leurs yachts, etc., c'est rien à côté.
La personne justifie la pollution, sa pollution, par celle des riches. La pollution des 24 heures, ouais, mais par rapport aux riches. La pollution de tout ce qui lui plaît à lui, oui, mais par rapport aux riches. Et sans du tout pouvoir donner des éléments de comparaison, il indique que la pollution des 24 heures n'est rien à côté de celle des riches. Un sociologue, Théodore Talan, travaille sur ces sujets et démontre à longueur d'article que les mesures politiques contraignantes en termes de lutte contre la destruction de nos environnements sont bien mieux acceptées quand un effort est aussi demandé aux rupins. On vous recommande ces articles en anglais consultables sur Théodore Talan avec deux L.com et l'émission qu'il avait faite sur blast-info.fr en date du 2 décembre 2024 avec Paloma Moritz. Le Pékin peureux du changement, qui considère que sa façon de vivre est non négociable, trouve des relais, surtout à droite et à l'extrême droite. Des partis affirment leur soutien à la vie conforme telle qu'elle est décrite actuellement en Occident. Ainsi, en Pologne, il existe la Confédération Liberté et Indépendance, un conglomérat de partis qui compte en son sein des nationalistes de nouvel espoir, dont le chef, Sławomir Mezen, candidat au poste de président de la République en Pologne en 2025, avait dit en 2019 vouloir, je cite, « la création d'une Pologne sans juifs, sans homosexuels, sans avortement, sans impôts et sans Union européenne ». Cette confédération possède des élus au Parlement de l'Union européenne où ils siègent avec le RN, dans le groupe des Patriotes pour l'Europe. D'ailleurs, Jordan Bardella est allé se faire voir en Pologne les 18 et 19 juin, deux jours pendant lesquels il a pu profiter d'un guide en la personne de Christophe Bozak, vice-président du parti Mouvement National, un autre parti qui est dans la confédération. En pleine campagne pour la présidentielle en avril 23 2023, Sławomir Mezen fait un live sur Internet où il dit « Une maison, un barbecue, une pelouse, deux voitures et des vacances devraient être la norme pour tout Polonais qui travaille ». La phrase fait florès et devient le slogan revendicatif qu'on trouvera sur les réseaux sociaux de la Confédération. « Une maison, un barbecue, une pelouse, deux voitures et des vacances pour tous les Polonais qui travaillent ». Et on lit ça sur les comptes Instagram et X de la Confédération à partir de la fin 2023. Un slogan dans la ligne droite de la phrase de George Bush père, le mode de vie américain n'est pas négociable. En effet, négocier avec ce mode de vie revient à remettre en cause les racines de l'exploitation des ressources humaines par les détenteurs des moyens de production. Une exploitation basée sur l'utilisation d'énormément d'énergie, un gaspillage outrancier de l'énergie pour finalement surproduire et remplir les centres d'enfouissement technique, ouais, c'est le nom technocratique des décharges, et remplir également les incinérateurs de produits qui ne se vendent pas ou qui continuent à être utilisables mais sont remplacés par une nouvelle génération à la mode. Ce mode de vie est défendu par les mouvements d'extrême droite dans tout l'Occident et par Fabien Roussel quand il veut flatter les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le pavillon à soi, sorte d'îlot où on fait ce qu'on veut au milieu d'un océan de contraintes. La bagnole, symbole de liberté et de puissance, mais multiplié par deux, hein, puisque ce beau monde vit en couple. Le barbecue des viandards et les vacances pour se remettre des mois d'exploitation de sa force de travail participent au modèle culturel présenté comme normal. Cette façon de vivre, ses aspirations se sont diffusées dans tout l'Occident depuis le début du XXe siècle seulement et dans le monde entier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, cette façon de vivre apparaît comme l'identité d'une vie authentiquement française qu'il faut défendre contre les mondialistes, ceux qui voudraient nous faire vivre à la... ou à la... vous mettez ce que vous voulez, en tout cas pas à la française. Bien sûr, dans chaque pays, les partis politiques nationalistes et de droite remplacent française par l'adjectif du coin dans une lutte culturelle pour ne pas disparaître. Les slogans et les discours des conservateurs, qu'ils soient proches des nazis ou des milieux d'affaires, et parfois des deux, affichent toujours l'idée qu'il faut continuer à faire comme avant. Et que les catastrophes climatiques se multipliant, eh bien ça n'y change rien. Cela peut être même récupéré en travestissant le réel, ce que fait très très bien l'extrême droite. Un exemple, Jean-Philippe Tanguy dans la matinale de TF1 le 23 juin 2026.
Vous disiez, 2003 on aurait dû tirer les conséquences. En 2023, oui. 20 ans plus tard, Marine Le Pen dit à propos du réchauffement climatique et des experts du GIEC, le GIEC a toujours été alarmiste. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit réveil un peu tardif du Rassemblement National pour se dire qu'il y avait un changement climatique et qu'il fallait trouver des moyens soit de s'adapter, soit de lutter contre?
Non, pas du tout. Parce que si vous isolez une phrase de Marine Le Pen, le programme du Rassemblement National, ça a toujours été un programme de lutte contre le réchauffement climatique. La vision du monde que nous avons, bah oui, on était contre la mondialisation aujourd'hui. Donc la mondialisation, c'est quoi en France? 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les importations. C'est ce grand déménagement du monde qui a dispersé la pollution et aggravé la pollution.
Donc vous êtes un peu les nouveaux écologistes.
On a toujours été écologistes. D'ailleurs, l'écologie, essentiellement, ça vient de droite. Moi, je regrette, si vous voulez, que l'extrême-gauche a cannibalisé l'écologie, parce qu'en fait, ils sont partis d'une réalité qui est partagée par les Françaises et les Français, un constat, et les solutions de la gauche et des écologistes ont tout aggravé.
Jean-Philippe,
vous voyez qu'à Nantes, ils vont construire un hôpital sans climatisation.
Vous-même, personnellement, vous avez déposé un amendement visant à réduire de 460 millions d'euros les crédits du Fonds vert qui permet justement la transition écologique.
Oui. Bah oui, parce que le fonds vert, bah pas du tout, le fonds vert était un espèce de fourre-tout, n'importe quoi. Bah même les préfets demandaient aux députés de la Somme que je suis, de trouver des projets dans les communes à financer.
L'exemple même du fallacieux, contre les importations, J.P. Tanguy. Et par contre, il n'a rien contre le productivisme. Produire et donc générer des gaz à effet de serre ici ou à 10 000 km vient quand même à produire et donc générer des gaz à effet de serre. Toujours écolo, le FN devenu le RN. Ah bah tiens, en 2012, Marine Le Pen est interviewée dans le magazine Terra Eco. Des petites phrases pas du tout sorties de leur contexte. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'interview sur le site Terra Eco en date du 21 février 2012. Le journaliste lui demande « Selon vous, les changements climatiques n'existent pas ? Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas sûr que l'activité humaine soit l'origine principale de ce phénomène. » Le journaliste, vous remettez en cause les conclusions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça ne me pose aucun problème, pour la simple et bonne raison que quand j'étais petite, mon père m'expliquait que le Sahara gagnait déjà 1 km par an. Le monde a connu des changements climatiques qui n'avaient rien à voir avec l'activité humaine. Ce ne sont pas les travaux du GIEC qui peuvent établir avec certitude que l'homme est la cause du changement climatique. Ah ben vous allez recruter le journaliste, vous allez recruter Claude Allègre avec ce genre de raisonnement. Je pourrais ? Oui, pourquoi pas ? Le GIEC, c'est le consensus de ceux qui ont la parole. Ce sont des prêtres et des évêques du changement climatique. Ceux qui disent l'inverse, ce sont les hérétiques. Voilà un discours totalement cohérent avec la position économique de l'extrême droite. Un positionnement résolument du côté des libéraux, donc des lobbies. Des lobbies qui abreuvent les médias de données qui instillent le doute, comme par exemple que le GIEC serait manipulé, serait de gauche, que ses conclusions peuvent être remises en question, que tout se vaut, et que si l'être humain n'est pas à l'origine des dérèglements climatiques, on ne peut pas lutter, puisque c'est la nature. Les lobbies des énergies fossiles sont sur le coup depuis des décennies. Depuis le renouveau libéral des années 80, les partis de droite, toujours pro-business, sont sur la même longueur d'onde. Aux États-Unis, avec Trump, on atteint des sommets puisque des milliardaires du pétrole et des amis de la fracturation hydraulique sont aux postes clés dans les ministères ou à la tête d'agences gouvernementales. En France, nous ne sommes pas si loin, comme Madame Pannier-Runacher, fille d'un pétrolier bien connu et nommée ministre de la Transition écologique. Entre septembre 2024 et octobre 2025, il faut lire ce qu'elle propose, sa politique, ses discours appuient énormément sur la compensation, la renaturation, la compétitivité de la forêt française qui doit servir de puits de carbone, l'encadrement du marché des crédits carbone, autant de mesures qui interviennent une fois que les gaz à effet de serre sont relâchés dans l'atmosphère. On voit bien qu'il existe une alliance claire entre les défenseurs de l'identité, les lobbies de producteurs, les think tanks libéraux et les politiques qui font carrière. Et que tout ce beau monde empêche de mettre en œuvre des mesures claires et drastiques d'atténuation. Réduire la production pour générer moins de gaz à effet de serre n'est plus à l'ordre du jour. Les solutions d'adaptation sont toujours mises en avant. Avec la première, l'habituation. Ceux qui ont à y gagner sont toujours les plus riches qui continueront à vivre comme avant sans se soucier des conséquences de leurs actes, soutenus par les politiciens qui profitent du ruissellement. Ouais, la relation caricaturale Jack Lang-Jeffrey Epstein participe au même principe que d'autres relations moins obscènes, mais tout de même problématiques quand on est censé représenter la population. Quand un Nicolas Sarkozy se fait prêter un yacht de luxe par Vincent Bolloré en 2007, on peut se demander s'il y a une contrepartie. Et faut pas croire, hein, il se passe plein d'autres trucs depuis. Des fois, ils assument, des fois, ils n'assument pas. Eh bien, nous, dans tout ça, on est les idiots utiles qui cuisent dans des passoires thermiques et que le gouvernement veut d'ailleurs pouvoir remettre sur le marché locatif en modifiant une loi toute neuve, à croire qu'ils défendent une française way of life. Pour se décoloniser l'imaginaire, comme disait l'autre, il conviendrait de bosser de trois concepts, comme par exemple le carbofascisme, le pendant dépensier et gaspilleur de l'écofascisme. On lira avec intérêt Fascisme fossile du Zetkin Collective. On peut enchaîner avec le bouquin de Cara Newdaget, intitulé Pétromasculinité, histoire de comprendre à qui on a affaire et si on veut vraiment participer à ce que propose ces populations. Et ensuite, faites ruisseler les idées autour de vous, parce que l'urgence est là, un petit peu, quand même, de faire comprendre que notre survie est en jeu. L'air de rien, là, l'agriculture morfle. À un moment, il n'y aura plus grand-chose à bouffer. Et faire advenir un monde désirable basé sur l'écologie sociale. Nos actions personnelles pour réduire notre empreinte carbone ne suffira pas. Il va falloir que nos soi-disant représentants, les copains de classe sociale des destructeurs de nos environnements, le comprennent. S'ils ne veulent pas le comprendre, va falloir leur faire comprendre. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission, de la dernière émission de la saison. Alors on vous dit quoi ? Ben un bel été, comme on dit. Il y a plein de trucs à faire, hein. Il y a des endroits où aller, il y a des festivals où ça discute, des festivals où ça danse, des festivals où, voilà, des réunions. Il y a même de la politique en plein été. Ben renseignez-vous, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'aller sur sarthe.demosphère.net pour avoir des infos et sur larnapé.info. Et ben en attendant de se retrouver sans doute la saison prochaine, je vous dis allez, au revoir. Mm-hmm.